suis changée, ça c'est ici, ça fait encore parce qu'avant je l'avais.
Oui.
Ça fait encore. Ça, c'était ma belle petite chambre. Évidemment, nous, on avait des petits lits. Moi, j'avais un lit de 30 pouces. Et puis, on avait une table de chevet, puis un petit bureau, puis une chaise. C'était notre une garde-robe, là, en bois. Et ici, moi, j'avais une bibliothèque qui avait été faite pour dans le coin ici, là, tout simplement. Petite bibliothèque pour mes livres. Mais ce que j'aimais par-dessus tout, c'était ma fenêtre. Fenêtre française avec une large place pour s'installer. Et puis, alors souvent, je m'installais ici, moi, pour prier sur le bord de la fenêtre. J'avais la belle nature, le jardin, et ça m'inspirait.
À chaque fois que j'entre au monastère des Augustines, la première chose que je ressens, c'est l'énergie très particulière qui s'en dégage. Dans ce balado, je vous propose de découvrir cet endroit unique grâce au témoignage des religieuses qui l'habitent encore. Je m'appelle Marie-Claude Paradis, je suis journaliste et voici...
Mémoire d'Augustine.
Alors, j'ai beaucoup aimé cette chambre-là. J'ai été ici des années même. Quand ils ont construit l'aile, ils ont rénové l'aile l'autre côté, là. J'ai pris du temps à déménager là. J'ai déménagé à l'extrême limite là, quand il a fallu quitter le lieu ici pour refaire le lieu. Mais j'aimais tellement ma chambre. Et par beau temps, là, je voyais la pointe de l'île d'Orléans là-bas. Et je voyais le matin à 5 heures, je me levais de bonne heure, je voyais les transatlantiques arriver. Ah, ça, ça me distrayait un peu dans ma méditation, mais c'était tellement beau à voir. Je suis contente, je vois qu'ils ont mis un coussin encore. Ça fait que les gens peuvent s'asseoir ici pour regarder dehors. C'est beau.
Ils sont sûrement habités par toutes ces heures de prière que vous avez fait sur le
bord. Ah, bien, toutes les chambres là, sont habitées par les temps de prière que les sœurs faisaient, là, parce qu'il y en a plusieurs qui priaient dans leur chambre aussi. Oui. Prière chapelle pour les offices et tout ça, mais la prière personnelle, on la faisait souvent dans nos chambres, c'était plus tranquille. Il n'y a pas de circulation, on n'était pas dérangé.
Quand on entre dans une des chambres du monastère, on dirait qu'on se sent déjà plus calme, apaisé. C'est peut-être parce qu'elles sont imprégnées de toutes ces heures de prière. Prier, c'est de ça dont il sera question aujourd'hui. Parce que ça a toujours été au cœur de la vie des Augustines. Et ce qu'on comprend en écoutant Sœur Lise, c'est que nourrir sa vie intérieure, pour une Augustine, ça commence souvent dans le refuge de sa chambre.
La chambre, c'est un lieu très, très personnel. C'est un lieu, disons, sacré. Moi, je prie beaucoup à ma chambre, là. J'ai un petit coin de prière. La plupart des religieuses, il y avait un petit coin de prière dans leur chambre. Et puis, c'est un lieu pour lire, se ressourcer, vraiment, là.
Notre chambre, c'est un endroit de silence. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'aller voir nos compagnes dans leur chambre. Ça, c'est un endroit un peu particulier, un endroit réservé. C'est vraiment le silence, la parole de Dieu qu'on peut lire, enfin, les lectures spirituelles. C'est une partie de la maison qui est très précieuse et appréciée.
J'imagine que quand on vit en communauté, c'est d'autant plus précieux d'avoir un espace à soi pour se retrouver seul en silence. Les religieuses aiment prier dans leur chambre le matin, mais ça ne s'arrête pas là. En fait, c'est toute leur journée qui est rythmée par la prière.
En ce qui concerne la vie de prière, on a nos offices régulièrement, la prière des laudes le matin, la messe, puis on est obligé chaque jour de faire... une heure d'oraison, de contemplation. Et ensuite, nous avons les vêpres le soir avant souper. Et puis, avant de se coucher, ce sont les complies, les dernières prières qui sont composées de psaumes, hein, puis de la parole de Dieu.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne...
Les Augustines vont donc prier ensemble à la chapelle le matin et en fin d'après-midi. Bon. Des religieuses qui prient ensemble plusieurs fois par jour, jusque-là, il n'y a rien d'étonnant. Mais ce qui m'a intriguée, moi, c'est cette heure d'oraison, de contemplation que Sœur Berthe a évoquée. Sœur Lise aussi, d'ailleurs. Alors, je lui ai demandé de m'en parler davantage.
Bien, dans nos constitutions, on nous demande de faire une heure d'adoration par jour. Alors, ça, c'est, pour nous, c'est sacré. Ça, quand on, si une journée ou l'autre, on ne peut pas le faire, ça nous manque. Ce qu'on fait, on fait notre heure, la plupart font leur heure d'adoration en se levant. Alors, une heure de prière à partir de la parole de Dieu. Comment on l'applique dans notre vie, la parole de Dieu? C'est ça qui est important, là, tu sais.
Dans ce monde, nous cheminons dans la foi. Et le Seigneur met sur nous.
Alors, quand on vit des difficultés, bien, c'est très important de se remettre en face de Jésus qui a vécu tous ces moments-là, puis nous dire de nous aider quand c'est plus difficile.
S'inspirer de Jésus et de l'Évangile pour faire face aux difficultés de la vie. J'écoutais Sœur Berthe et je dois avouer qu'il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui se demandait à quel point un texte écrit il y a 2000 ans pouvait réellement être pertinent pour affronter le quotidien du 21e siècle. En toute transparence, même si j'ai été élevée dans la religion catholique et que je me suis beaucoup intéressée aux écrits de la Bible, je ne peux pas dire que j'y ai trouvé une grande résonance rendue à l'âge adulte. Et puis, au cours de ma discussion avec Sœur Lise, elle m'a raconté avoir lu le matin le passage sur le miracle de la multiplication des pains. Et alors qu'elle me partageait sa réflexion matinale, j'ai commencé à comprendre comment on pouvait y trouver de l'inspiration.
Il y avait une grande foule réunie auprès de Jésus, et puis il n'avait pas mangé depuis quelque temps, fait que les apôtres ont dit, ben là, comment est-ce qu'on va faire? On ne peut pas les renvoyer chez eux, ils vont mourir en chemin, les trois jours qu'ils sont ici, ils n'ont presque pas mangé. Alors, le Seigneur a dit, qu'est-ce que vous avez? On dit, on a 5 pains puis 3 poissons pour une foule comme ça. Fait que là, le Seigneur a multiplié les pains et les poissons, mais il est parti du peu qu'ils avaient. Il n'est pas parti, il n'a pas fait le miracle, il a fait apparaître les pains. Puis ça, il est parti de ce que les gens avaient. Alors, je trouve que c'est un bel exemple, ça, de foi et de confiance dans les personnes. Chaque personne a quelque chose qu'elle peut développer davantage. Et c'est comme ça que la parole de Dieu, on se dit, « Bon, ben, regarde, moi, c'est ça, là, peut-être pas grand-chose, mais le petit peu que j'ai, là, je pourrais peut-être le faire fructifier. Là. C'est comme ça que la parole de Dieu nous instruit puis nous aide tous les matins à vivre notre vie davantage en conformité avec le Christ. Le point principal pour nous autres, c'est le matin. On va à la source le matin, là. On va chercher, on dirait, le gaz le matin là, pour être capable de vivre toute la journée, là, de fonctionner toute la journée. Alors, c'est comme ça. Puis ça commence le bonheur le matin, puis tous les jours.
Et ça, je peux vous dire que dans toute ma carrière à l'hôpital, là, pour moi, c'était très important le matin de me lever de bonne heure puis de faire une heure d'oraison avant d'aller travailler. Puis ensuite, il y avait la messe. Mais ça, c'était très, très important pour je demandais au Seigneur de me donner, disons, la grâce, la force de répondre aux besoins des malades. Parce que soigner les malades, c'est soigner aussi Jésus dans leur cœur. Hein? C'était vraiment très clair là, pour les Augustines. Hein? On soigne les corps pour atteindre les âmes.
Vous vous rappelez peut-être qu'il y a 3 volets importants à la vie des Augustines. La vie de communion fraternelle, l'apostolat, c'est-à-dire leur mission de soins, et la prière. Et ce qu'on comprend en discutant avec elles, c'est que ces 3 volets-là sont intimement liés et qu'il n'y a jamais eu de coupure entre leur vie extérieure à l'hôpital et leur vie intérieure nourrie par la prière. On écoute Sœur Carmel.
Notre vie, c'est toujours un aller-retour entre l'action et la contemplation. Alors, notre action est portée, est supportée, elle est enrichie par notre prière et on prie au nom de tout le monde, en particulier pour ceux qui nous sont proches, les pauvres, les souffrants, les personnes qu'on rencontre.
Dans le tout premier épisode de cette série, Sœur Carmel nous avait parlé de la fameuse porte qui sépare le monastère de l'hôpital. Pour elle, Cette porte est vraiment une belle métaphore pour parler de ce mouvement continuel entre l'extériorité et l'intériorité, l'un soutenant l'autre.
C'est être là, mais avec des gestes qui sont habités par une intériorité. Et c'est en fait ce qui est porté intérieurement dans la prière, dans la contemplation, qui va se réfléchir, qui va se manifester auprès de la personne dans des gestes de bienveillance, de douceur, de bonté, d'accueil inconditionnel.
Ainsi, tous les jours avant de nourrir leur corps, les Augustines commencent par nourrir leur vie intérieure pour puiser l'énergie dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches quotidiennes. Un peu comme le sportif qui s'entraîne à chaque matin ou le yogi qui commence chaque journée sur son tapis. Ça ne date pas d'hier et ça ne se limite pas à la lecture de l'Évangile. Quand j'ai visité le musée du monastère avec la conservatrice Ariane Blanchet-Robitaille, on s'est arrêté devant un costume traditionnel qui est exposé. Vous savez, ces grandes robes blanches avec le long voile. Et Ariane me racontait que s'habiller le matin était aussi un prétexte pour prier.
On sait que les sœurs avaient une prière pour chaque morceau de costume qu'elles portaient. Donc, le matin, lorsqu'elles vêtissaient le costume, elles avaient une prière spécifique pour chacune des parties, que ce soit la robe, la guimpe, le bandeau. Il y avait une vingtaine de pièces du costume à enfiler quotidiennement. Donc, c'était tout un processus, en fait, de se vêtir. Et c'était surtout accompagné d'une intention. C'était pas un simple habit, c'était vraiment un saint habit, comme certaines nous l'ont décrit. Et on sait aussi que les Augustines utilisaient beaucoup l'artisanat comme moyen de dévotion. Donc, lorsqu'elles faisaient un enfant Jésus de cire, par exemple, il y avait toute une intention qui était transmise derrière tout ça. Donc, c'était pas seulement de l'artisanat pour créer une belle pièce qui était jolie esthétiquement, mais ça avait aussi tout un sens au niveau de la dévotion.
C'était en 69? Juste la paperole.
27.
Ah, c'est ça, j'étais pas loin.
Donc là, ici, on a un exemple d'ouvrage en paperolle. La paperolle, en fait, c'est un artisanat, un savoir-faire qui implique de rouler du papier très, très finement autour d'un petit bâton, puis de créer des motifs là, d'enroulement. Donc, c'était souvent des motifs décoratifs de fleurs ou simplement là, des ornementations là, pour des cadres. Ça témoigne d'un artisanat, d'un savoir-faire, mais non seulement ça, on a vraiment... L'objectif derrière l'objet, c'est d'inciter à la dévotion. Donc, on peut croire aussi que l'artisane qui était responsable de la création de cette œuvre-là utilisait l'art pour sa dévotion personnelle, donc pour prier en même temps. C'est un art qui est très méditatif et très précis.
C'est magnifique! C'est des tout petits rouleaux, là!
Mm-hmm. C'est très, très fin comme ouvrage. C'est, ça demandait vraiment beaucoup de minutie et de patience.
Les Augustines priaient au lever, priaient en s'habillant, utilisaient leurs loisirs comme moment de dévotion. Bref, la prière, sous une forme ou une autre, était et est encore omniprésente dans leur vie de tous les jours. Et l'historienne et archiviste Sarah Bélanger nous dit qu'on peut aussi le constater dans les archives.
La prière occupe une place vraiment importante dans la vie des Augustines. C'est tous les jours, donc elles sont continuellement en train de prier. Évidemment, on ne les voit pas nécessairement en train de prier, mais dans leur tête, elles sont en état constant là, de prière, pour ce que j'en ai lu dans les archives. Donc, on voit vraiment que ça prend une grande place. Puis, dans la correspondance, dans les annales aussi, on se réfère souvent à la prière. Puis, on prie pour soi, on prie pour les autres, on prie pour notre communauté, on prie pour les malades. Il y a des milliers d'allusions à la prière dans les archives des Augustines, que ce soit un menu, une lettre qui a été envoyée ou reçue, les bons mots qu'on envoie aux autres.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, prier? De nos jours, pour bien des gens qui pratiquent peu ou pas une religion, la prière se résume à demander ce qui nous manque ou ce qu'on désire, et c'est souvent une solution de dernier recours. « Oh, je vous en prie, mon Dieu! » Ou encore, c'est répéter des formules apprises par cœur il y a longtemps, sans nécessairement trop réfléchir au sens des paroles qu'on prononce. Mais pour une Augustine, prier, ça veut dire quoi? Pour Sœur Sylvie, en tout cas, ça veut dire beaucoup de choses.
Prier, tu demandes, tu rends grâce au Seigneur, tu le remercies. Tu lui dis ce qui ne va pas. Tu lui dis que tu es contente, tu es heureuse. C'est tout ça, la prière. C'est tout ça.
Prier pour moi, c'est laisser Jésus se vivre en mon cœur, mais en essayant aussi de le calquer, de suivre aussi le chemin qu'il m'indique. Hein? Moi, je dis souvent à Jésus, là moi, je ne parle pas, je ne dis rien, mais viens donc semer dans mon cœur les bonnes choses que je devrais faire, que je devrais dire. Ce n'est pas tellement, nous autres, toujours dire des choses, mais se laisser envahir par l'Esprit de Dieu.
Et comme vous pouvez l'entendre, une particularité des Augustines, c'est qu'elles prient aussi en chantant.
Les gens trouvent ça extraordinaire, mais on fait ça depuis des millénaires, nous autres, prier les psaumes en chantant.
Qu'est-ce que ça apporte de plus de les chanter?
Il y a un dicton qui dit « Chanter, tu pries deux fois.
» C'était une louange au Seigneur, hein? Plutôt de prier en parlant, disons en récitant, bien, c'était chanter.
Puis, moi, je pense toujours que quand on chante comme ça, je pense aux anges qui chantent dans le ciel. Les anges qui chantent la gloire de Dieu dans le ciel. Bien, dans le ciel, en tout cas, dans le royaume des cieux. Puis nous autres, bien, on se pratique pour être capable de chanter comme les anges au ciel. C'est notre façon de prier.
Quand Loire était de ce côté-là, ici, là. C'était l'entrée était ici avant. Et puis, il y avait une partie de parloir de ce côté-là, mais le grand parloir était ici, tout proche. L'entrée était ici, là. Alors, il y avait le grand parloir qui était là.
Est-ce que c'est là que vous receviez vos
visites? Oui.
Quand vous arriviez dans un monastère, on vous faisait passer au parloir. Vous aviez une place pour aller au parloir, mais jamais que vous entriez dans tout le monastère.
Ça peut avoir l'air un peu anodin comme détail, mais ça ne l'est pas. Lorsqu'on a commencé à faire les travaux qui allaient permettre de transformer le monastère des Augustines en lieu public, dans les premiers plans, les architectes prévoyaient un grand hall d'entrée très ouvert.
J'ai dit non, on ne rentre pas dans un monastère comme on rentre dans un centre d'achat. C'est mystérieux d'entrer dans un monastère, et ça a toujours été comme ça. Alors, vous voyez l'entrée ici, il y a comme un couloir, hein? Puis on voit en élargissant après. Bien, c'est un peu ça, c'est un passage étroit qui nous amène à découvrir plus grand que soi, à un moment donné. Veux, veux pas, l'homme est un être limité, hein? Qu'on le veuille ou pas, là, on peut prendre toutes les pilules nécessaires pour vivre jusqu'à 100 ans, là, mais ça n'ira pas tellement plus loin que ça. Alors, l'homme sent qu'il y a une certaine limite, puis on n'aime pas ça être limité. Donc, à un moment donné, il faut aller à un autre niveau de soi. Tu sais, je me dis, on n'est pas juste un être de chair et d'eau. On a vraiment là une âme. Et l'âme, c'est ce qui va créer notre spiritualité. Moi, il n'y a pas... Même ceux qui se disent athées, là, je te dis que les vrais athées, il n'y en a pas tellement. On dit ça des fois, là, moi, je trouve que c'est une façon C'est comme si c'était à moi de dire ça, là, ou de dire, ben moi, je ne suis pas pratiquante, je ne suis pas croyante. Il dit ça en partant, là, c'est comme si c'était une marque. De... Mais je ne suis pas sûre de ça, moi, qu'à un moment donné, là, tu sais, il y a des temps qui nous amènent à réfléchir, hein. Et l'âme qu'on a en nous, là, c'est ce qui nous anime. Puis il faut être animé par quelque chose, hein. En tout homme, moi, je trouve qu'il y a une graine spirituelle importante et tôt ou tard, il la découvre. Tôt ou tard, on la découvre parce qu'on découvre c'est quoi qui nous anime. Il y a quelque chose qui nous anime à l'intérieur, qui nous forme. Parce que vous savez, on n'a jamais tant parlé de spiritualité que de nos jours, hein. Les gens sont tous à la recherche. Alors, il y en a qui viennent ici, là, c'est pas un milieu, le monastère des Augustines, là, c'est un lieu d'accueil pour toutes les personnes de toute race, culture et religion, on est ouverte à tout ça. On l'a toujours été, d'ailleurs, dans les hôpitaux, quand une malade arrivait, on ne demandait pas s'il était baptisé, s'il était catholique, on soignait, c'est tout, hein. Et c'est ça que je trouve beau ici, un lieu qui permet un retour, c'est toujours, c'est un lieu pour se recueillir. Cueillir, c'est-à-dire se cueillir à nouveau. Les gens qui viennent ici, c'est l'expérience qu'elles font. Hein. C'est un lieu, c'est tranquille, il n'y a pas de, dans les chambres, pas de télévision, pas de radio, il n'y a rien. Ils viennent vraiment vivre une expérience en soi de venir au monastère. Mais plus profondément que ça, souvent, ça débouche sur une expérience spirituelle que la personne, des fois, ne pensait pas vivre, mais que... Et des fois, il nous en parle. J'ai vu une dame, une fois, je suis allée au cœur durant la journée pour chercher quelque chose, un lit dans ma salle, et puis une madame était assise en arrière, puis je voyais qu'elle pleurait. Fait qu'en sortant, je me suis approchée, je lui ai dit, est-ce que je peux vous rendre service? Elle a dit, non, je pleure de joie. Je viens de découvrir quelque chose que je cherchais depuis longtemps.
On sent que les gens ont besoin de quelque chose. Les gens cherchent, puis savent pas. Mais nous autres, on sait qu'ils ont besoin du spirituel. Les gens cherchent à se retrouver, à se ressourcer. Et c'est ça qu'on offre ici. Puis souvent, les gens qui viennent ici, ils savent pas ce qu'ils viennent chercher, mais ils le trouvent. Seulement avec l'atmosphère de la maison, le silence, la tranquillité. Des fois, ils nous écoutent chanter à chapelle. Ah, ils viennent voir. Puis hop, tiens. Alors, c'est tout ça. Les gens cherchent parce que ils ont tout laissé tomber.
Quand Sœur Lise dit qu'il y a des temps qui nous amènent à réfléchir et que Sœur Sylvie dit que les gens cherchent sans savoir ce qui leur manque, ça me parle beaucoup. Il y a quelques années, j'ai vécu un moment de grand brouillard intérieur et je me rappelle à quel point j'avais l'impression que j'étais déconnectée de moi-même, que ma vie ordinaire n'avait plus aucun sens. Le travail, les enfants, l'impression d'être toujours à la course, d'être partout et nulle part en même temps, me demander à quoi ça sert tout ça. C'est dans cette période plus trouble de ma vie que je suis allée au monastère pour la première fois. Sœur Lise dit qu'on y va pour se cueillir à nouveau. Dans mon cas, c'était totalement ça. Et quand on voit les statistiques sur le nombre de dépressions, d'anxiété et de détresse psychologique qui ne cessent d'augmenter, je me dis que je suis probablement pas la seule à avoir besoin de me cueillir à nouveau. Qu'on soit engagé dans une démarche de réflexion personnelle, dans une pratique spirituelle quelconque ou pas, un séjour au monastère, c'est particulier. Si on se laisse imprégner par l'esprit des lieux, on peut peut-être en venir à comprendre que tout ce dont on a besoin est déjà là, présent dans le silence de notre cœur, et que tout ce qu'il faut faire pour le cueillir, c'est de se tourner un peu plus vers l'intérieur, en s'inspirant de ces femmes qui ont consacré leur vie à la prière et au prendre soin. en choisissant de transformer leur monastère en lieu public axé sur le mieux-être, les Augustines ont légué bien plus que leur patrimoine matériel. Elles permettent que se poursuive leur mission de prendre soin des corps et des âmes.
On vivait dans ce patrimoine-là. On le voyait presque plus parce qu'on vivait dedans. Mais surtout, ce qu'on a vécu, c'est vraiment une expérience profonde intérieure, une expérience de vie, de communion fraternelle et de service. Alors, si les gens viennent ici, qui vivent une expérience qui les revigore, si on peut dire, qui les aide à être mieux en eux-mêmes, en elles-mêmes, et après ça, qu'elles sont plus disponibles pour les autres, bien, c'est ça. De redonner aux autres. On est des êtres à la base. On est fait pour la sociabilité, on est fait pour la fraternité. Mais pour être capable de vivre ça, il faut se connecter à soi-même ou à plus grand que soi. Il faut se posséder un peu. C'est l'héritage qu'on voudrait laisser. Si les gens viennent ici, là, qui viennent ici au monastère des Augustines, qu'au-delà de l'expérience culturelle qu'elles vont vivre dans les lieux, et par les expositions, le musée, les archives et tout ça, qu'elles vivent une expérience intérieure.
Si l'écoute de cet épisode vous donne envie de découvrir ou de redécouvrir le monastère des Augustines, vous pouvez y planifier un séjour, participer aux activités ou en visiter le musée. Vous trouverez tous les détails sur le site monastère.ca. Le balado Mémoire d'Augustine a été conçu et réalisé par moi-même, Marie-Claude Paradis, avec la collaboration d'Andréanne Quentin et de Lisa-Marie Perrault, responsable du musée du monastère des Augustines, et avec l'aide de Pascal Séguin pour le mixage sonore. Je souhaite dire un immense merci à toutes celles qui ont généreusement offert leur témoignage. Ce projet est rendu possible grâce à l'entente de développement culturel entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec.